Du ciel à la terre, un ami viendra vous voir ce soir.
Il serait banal d'y voir ainsi.
Oui.
Maintenant, tout est possible.
Ça, je m'en souviens, très bien.
Racontez.
Oh oui, je devais avoir 5 ans.
Une journée particulière, c'est tous les dimanches à partir de 14h sur France Inter. Pendant une heure, nos invités reviennent sur un jour important de leur vie. Une journée particulière, c'est là où se croisent une histoire individuelle et l'histoire collective. Aujourd'hui, je reçois Camille Ducellier. Bonjour Camille Ducellier.
Bonjour.
Merci de passer ce début de dimanche après-midi en notre compagnie.
Sur France Inter.
Camille Ducellier, vous êtes artiste, plasticienne, réalisatrice, vous êtes sorcière aussi.
Oui, tout à fait.
Une vraie?
Oui, je pense. Enfin, il n'y a pas de vraie ou de fausse, il n'y a que celle qu'on se sent devenir.
Donc vous vous sentez devenir sorcière?
Oui.
Vous ne l'êtes pas encore tout à fait?
On n'est jamais, on est toujours en chemin.
Donc vous êtes en chemin, sur ce chemin-là, vous?
Oui.
Vous êtes magicienne aussi, Camille Ducellier?
Magicienne, ouais. C'est vous qui le dites. Moi, j'ai jamais dit ça, mais pourquoi pas. En tout cas, la magie, ça me parle. Oui, c'est l'art de la transformation. Ça me parle.
Ça vous parle, donc ça vous va comme définition. Qu'est-ce qu'on devrait dire d'autre sur vous, Camille Ducellier, pour vous présenter?
Que je suis passionnée par l'art documentaire,
ouais.
Et par les rencontres, par les relations. C'est surtout ça qui m'anime.
Alors Camille Ducellier, vous avez choisi comme journée particulière le 1er avril 2007. Ce jour-là, vous commenciez un stage d'un mois à la clinique psychiatrique La Borde.
La Borde est née, oui, si on peut dire née, en début avril 53.
Allez, fais participer tes deux mains, Daniel. Tu fais ça d'un air.
On est obligé d'inventer et de constituer un milieu qui ne soit pas calqué sur les milieux habituels hospitaliers et ni sur les milieux tels que les milieux carcéraux. Alors, c'est une sorte de découverte quotidienne, journalière, de ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir accès au fait même de la maladie mentale. Et c'est souvent la difficulté vient que le chemin, enfin, l'accès est barré par des préjugés, aussi bien pseudo-scientifiques que des préjugés, disons, de l'opinion courante.
C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Camille Ducellier, c'est une archive de 1977. C'était un reportage qui s'appelait « La Borde ou le droit à la folie ». Vous devez le connaître, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Et c'est le docteur Oury que l'on entendait. C'est le fondateur même de cette clinique. Pourquoi vous avez choisi de faire un stage en 2007 à cet endroit-là particulier? C'est un endroit spécial.
Oui, c'est un endroit unique au monde. Totalement atypique, et on peut dire que j'ai baigné dans un environnement culturel tourné vers les arts et un peu la psychologie des profondeurs, avec des parents assez originaux, voire un peu marginaux dans leur genre.
Ouais.
Et j'ai toujours été assez intriguée par la psychiatrie et tout simplement aussi la folie, le rapport à la folie des proches, la folie des autres et sa propre folie. Et donc, ben là, à cette époque, j'ai 22 ans et je me questionne sur la folie. Je suis aux Arts décoratifs de Strasbourg. Et je me dis, voilà, il y a ce lieu atypique, j'ai envie de voir comment on cohabite comme ça tous ensemble.
Alors c'est un lieu atypique, c'est un lieu unique au monde parce que c'est un lieu où on expérimente des méthodes alternatives, c'est un lieu ouvert pour que tout puisse s'exprimer justement, pour que la folie même puisse s'exprimer et pour essayer de faire que les patients vivent au mieux avec leur folie.
Oui, et donc c'est un château.
C'est un château.
Qui est près de Blois et qui est dans un environnement de nature. C'est un microcosme, c'est un monde, quoi, un château avec une forêt, un jardin, des animaux, des ateliers, différents espaces où on circule. Et effectivement, dans ce lieu très particulier, il n'y a pas d'éléments qui signifient la fonction des uns et des autres. Donc il n'y a pas de blouse, il n'y a pas de petite plaquette avec son nom, avec marqué docteur machin. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très étonnant aussi. On rencontre les gens d'abord dans une altérité, on les rencontre, mais on ne sait pas a priori s'ils sont... Alors on ne parle pas de patients, on dit des pensionnaires à la Borde, justement pour montrer qu'ils sont maîtres des lieux et qu'ils habitent ce lieu et qu'ils sont chez eux.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ce stage, Camille Ducellier, pour que vous l'ayez choisi comme journée particulière ?
Eh bien, je vais vous raconter donc cette première journée, ce 1er avril, et c'est pas une blague. J'arrive à la gare de Blois et donc je cherche une navette qui va me mener jusqu'à ce château de la clinique psychiatrique de la Borde. Je vois quelques personnes qui ont l'air d'être comme moi en recherche. Et je comprends petit à petit, donc je rentre dans cette voiture avec quelques personnes qui me demandent ce que je viens faire là, qu'est-ce que je fous là. Et donc je leur dis que je viens faire un stage et je leur demande en retour, je demande au conducteur que j'interprète comme étant un soignant, j'imagine qu'il vient me chercher, encadrer un peu ma venue, et il me dit qu'il travaille pour la Borde. Et au fur et à mesure du trajet jusqu'à la Borde, je me rends compte qu'en fait c'est un pensionnaire, qu'il n'est pas du tout un psychiatre qui vient m'accueillir et me montrer les lieux, et que je suis avec dans cette voiture embarquée avec des foufous et des fofolles qui sont au volant de cette voiture. Et déjà d'emblée, c'est particulier comme expérience, puisque c'est quand même un lieu qui accueille des personnes qui sont des grands psychotiques. Donc avoir un grand psychotique au volant pour sa première journée, déjà ça trouble la barrière en fait dans la rencontre. Et puis j'arrive sur place et là je suis accueillie par une autre personne qui est un peu mon poisson pilote, donc mon guide pour me montrer les lieux. Et pareil, j'interprète encore mal, je pense que c'est un soignant qui vient m'accueillir ou un autre stagiaire. Et je fais le tour de tous les lieux, je trouve ça assez extraordinaire, je suis partagée entre crainte et fascination. Et à la fin de la visite, il me parle du 15 août où il y a chaque année un spectacle organisé par les pensionnaires. Et il m'explique comment ce spectacle a calmé ses hallucinations et me partage en fait comment lui, cette expérience du 15 août, ça a été important dans son rapport à ses hallucinations. Et donc encore une fois, voilà, dès la première journée, j'ai été confrontée au fait que je ne pouvais pas déterminer qui étaient les fous et qui étaient les gens sains d'esprit, que j'avais a priori rangé dans deux catégories bien strictes, et je pensais être du côté des personnes saines d'esprit, et je pensais que les gens étaient loin, rangés dans une boîte.
Oui, vous avez compris que la frontière était poreuse, en fait, que c'était bien plus poreux que ce que vous aviez imaginé au départ, Camille Ducellier, c'est
exactement.
Ça ?
J'ai fait cette expérience qui n'était pas du tout intellectuelle, pas du tout littéraire, pas du tout théorique, qui était vraiment de l'ordre de l'expérience, de me rendre compte que la folie, elle circule entre les gens.
D'abord, c'est vous qui m'avez rendu malade. La société, en général, je fais pas de cadeaux. La société en général. Et maintenant, je vais mieux, grâce à la société aussi. Je vais mieux. Et maintenant, je flotte un peu. Mais je suis à la Borde, alors je crains rien. On est protégé de l'extérieur. On est entre nous. Et vous êtes entre nous aussi, maintenant.
Vous êtes entre nous aussi, dit ce pensionnaire de la Borde. C'était un extrait du film de Nicolas Philibert. Justement, il a filmé toute la préparation de ce fameux spectacle du 15 août. Et ce pensionnaire magnifique, un peu flottant. Et c'est l'impression que vous avez eue aussi, Camille Ducellier, d'être entre eux, entre nous, entre vous, entre eux, entre...
Comment... Entre deux.
Entre deux.
Oui, en effet. Et d'ailleurs, j'ai bénéficié d'une chance assez rare. C'est que j'ai été prise pour une pensionnaire à peu près pendant tout mon stage.
C'est génial.
Parce que je venais des arts plastiques et j'avais pas vraiment le même look et les mêmes attitudes que les autres stagiaires qui venaient plutôt de psycho, philo, sciences humaines et sociales. Et donc assez rapidement, de par mon certaine forme de maladresse et de spontanéité mélangée, et aussi peut-être mon look et mon tempérament, Je me suis rendu compte que j'étais prise pour une pensionnaire et que ça me donnait un accès très direct et une complicité avec les gens parce qu'ils se sentaient pas justement jugés, observés. Et à la fin de mon séjour, plusieurs pensionnaires avec qui j'avais créé une relation m'ont dit « Ah, ton séjour était court, félicitations, bon voyage, bonne suite ». J'ai trouvé ça très touchant et c'est vrai que ça, cette entre nous, ça a été constitutif de tout ce qui a suivi.
Donc depuis ce stage, vous êtes une autre, Camille Ducellier. En tous les cas, vous avez compris que vous pouviez et que vous étiez certainement aussi une autre. C'était en 2007 et en 2007, c'était l'année Amy Winehouse.
Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Cause there's nothing you can teach me. But I can't learn from Mr.
Avril 2007, c'est la journée particulière de Camille Ducellier. Ce jour-là, vous commencez donc un stage à la clinique psychiatrique La Borde. Ça va vous transformer. Et moi, je me suis dit que c'était peut-être pas tout à fait un hasard, Camille Ducellier, que vous soyez intéressée à la folie, parce que vous avez eu, je crois, une arrière-grand-mère que l'on disait folle.
Alors, c'est une arrière-grand-mère qui est un peu encore mystérieuse pour moi. Je ne sais pas exactement qui elle était, bien que je l'ai connue un peu enfant, mais c'est vrai qu'elle était guérisseuse, sorcière, décrite comme une sorcière par les membres de ma famille. Et peut-être folle, peut-être effectivement folle, peut-être charlatane, peut-être abuseuse, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de fantasmes cristallisés sur cette femme dont j'ai assez peu de souvenirs, si ce n'est ses mains. Car
Vous l'avez rencontrée ?
Je l'ai rencontrée quand j'étais enfant. Apparemment, elle m'impressionnait beaucoup et je me rappelle de ses mains immenses qui sont les mêmes que les mains de mon père et les miennes. On a une particularité où on a un pouce très, très désarticulé, très important.
Ah oui, je vois. Et ça fait vraiment les mains de sorcière.
Voilà,
pour le coup.
Ça fait des mains, un pouce un peu crochu, étrange.
Ah oui.
Et je tout me paraissait grand chez elle, y compris ses mains.
Et quoi d'autre ? Quels souvenirs encore vous avez d'elle ? Vous en avez d'autres à part ses mains ?
Le fait qu'elle était alitée pendant très très longtemps, toute la fin de sa vie, elle a travaillé allongée. Donc ça aussi c'était particulier, une femme comme ça, alanguie, allongée, qui travaille depuis chez elle par téléphone et qui donc soignait les gens, aidait les gens par téléphone et gagnait sa vie comme ça, en faisant de la voyance, la médiumnité. Et donc voilà, donc j'ai entendu d'abord ce terme de sorcière attribué dans sa forme la plus classique, c'est-à-dire plutôt péjorative, pour désigner quelqu'un et non pas quelqu'un qui se désigne.
Oui, alors que vous désignez voilà. Sorcière. En 2007, Camille Ducellier, vous étiez donc encore toute jeune, hein, 22 ans, c'est ça? Vous étiez un bébé féministe, ce sont vos mots?
Oui.
Je reprends vos mots. Vous veniez de lire pour la première fois Judith Butler et vous étiez encore et toujours, je crois, ultra fan de la série Buffy contre les vampires. Qu'est-ce que c'est que cette série? C'est une série fantastique. Buffy est une élue, c'est ça?
Tout à fait. Une tueuse de vampires. Et c'est vrai que j'ai été biberonnée à la culture pop et à Buffy contre les vampires, à X-Files, à ces séries qu'on regarde chez soi à la télé. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été extrêmement important de voir un groupe de jeunes femmes capables d'utiliser ce qu'on appelle maintenant l'empowerment ou l'empuissancement. Donc la capacité à être maître et maîtresse de leur destin. Et je l'ai trouvée badass, courageuse, belle, forte, intelligente, créative. Enfin voilà, c'était enfin des supports d'identification pour moi en tant qu'adolescente et je pense que ça a contribué à mon devenir sorcière.
Imaginez que vous avez ce pouvoir. Maintenant, à chaque génération, une tueuse vient au monde. Parce qu'une bande de types qui sont morts il y a des milliers d'années ont fixé les règles du jeu. Ces hommes étaient puissants. Cette femme est plus puissante que tous ces hommes réunis. Alors changeons les règles de ce jeu. Moi, je dis que mon pouvoir devrait être votre pouvoir. Demain, Willow utilisera l'essence de la faux pour changer notre destin. À partir de maintenant, toutes les tueuses potentielles qui attendent de par le monde deviendront des tueuses. Toutes les filles qui attendent d'avoir le pouvoir auront ce pouvoir. Celles qui étaient soumises résisteront enfin. Des tueuses. Chacune d'entre nous. Faites un choix. Êtes-vous prête à être forte? Venez qu'on vous écrase.
Camille Ducellier. Quand vous vous revendiquez sorcière, en fait, ce que vous revendiquez, c'est cette puissance-là, cette puissance qu'on a entendue dans cet extrait, qui était l'ultime extrait de la série Buffy contre les vampires, quand toutes les femmes deviennent des élues et deviennent des tueuses des forces du mal. Mais c'est ça que vous revendiquez, c'est cette puissance-là, la
oui.
puissance des femmes.
Tout à fait, et aussi, elle parle bien au départ du pouvoir des hommes, donc qui serait le patriarcat. Et on pourrait l'opposer à cette puissance intérieure qu'on peut développer, et notamment à travers le féminisme et plein d'outils, l'ésotérisme aussi, et plein de choses qui nous permettent d'être maîtres de notre vie.
Donc pour vous, Camille Ducellier, la figure de la sorcière est une figure féministe, et de ses victimes, vous en avez fait quelque chose qui est de l'ordre de la puissance, et de la puissance de la pensée, et de la puissance du corps.
Oui, et cette inversion dont vous parlez, de victime A, ça rejoint aussi le terme lui-même, sorcière, et on le voit aussi pour d'autres termes qui, par le passé, étaient des insultes. Gwyn, pédé, queer, bizarre, fou. Il y a des termes comme ça qui sont des insultes et qui sont des stigmates renversés, c'est-à-dire que les communautés elles-mêmes les utilisent non plus pour les subir, mais pour s'en emparer et que ça devienne des emblèmes. Donc, à tous ceux et celles qui ont dit « sale sorcière », eh bien, on a envie de dire oui, on est des sorcières. Oui, on se revendique de cet héritage-là aussi, de cette histoire-là. Et oui, on peut être dangereuse et renverser un ordre.
Alors, quelle est cette histoire-là, justement? De quoi la sorcière, de quoi la sorcière est le nom? C'est quoi la femme affranchie qui tient seule debout, sans un homme? C'est quoi la figure de la sorcière?
Oui, toutes ces femmes indépendantes, toutes ces femmes qui sortent d'une manière ou d'une autre des cadres, des normes. Et bien sûr qu'il y avait celles qui avaient des connaissances médicinales, bien sûr qu'il y avait celles qui étaient des avorteuses, qui avaient un rapport à la vie et à la mort. Bien sûr qu'il y a celles qui étaient en communication avec les mondes invisibles, mais pas uniquement. Par cette inquisition, selon les époques et les contextes, n'importe quelle femme qui ne rentre pas dans la bonne femme, la bonne féminité, la bonne épouse, pouvait être taxée de sorcière et ensuite torturée, violée, tuée et brûlée en place publique.
Les sorcières étaient des femmes qui, la plupart du temps, n'avaient rien à se reprocher. Lorsque la dénonciation aidant, elles allaient devant le juge. Or, le juge avait les moyens d'extorquer des aveux conformes au récit de son manuel de démonologie. Il avait les moyens physiques, c'est-à-dire ces tortures du Moyen-Âge, plutôt de la Renaissance, car nous étions sous la Renaissance. Michelet a parlé des sorcières au Moyen-Âge qui étaient persécutées, mais c'était bel et bien la Renaissance. Il y avait ces instruments de torture qui étaient les tourdillons, l'estrapade, etc.
Mais à quoi reconnaissait-on une sorcière?
Voilà justement une question extrêmement délicate. On la reconnaissait prétendument à certains signes. Et il y a des sorcières qui ont été dénoncées comme telles parce qu'elles avaient fait le tour de... Elles avaient été vues faisant le tour de l'église à reculons. D'autres parce qu'elles avaient dit le chapelet avec le crucifix composant le chapelet était ébréché. On disait qu'une personne pouvait être sorcière parce qu'on la trouvait tout le temps à l'église pour espionner ou parce qu'elle n'allait pas assez souvent à l'église. En fait, toutes les querelles, toutes les vengeances, toutes les rancunes de clochers pouvaient alimenter les dénonciations de sorcellerie.
C'est une archivinade de 1969 et c'est l'historien Jean Vartier que vous entendiez, Camille Ducellier. En fait, cette chasse aux sorcières, ça a été une guerre contre les femmes. 100 000 victimes, hein, on dit.
Oui, et on reparle maintenant aujourd'hui de féminicides. Et ce sont des féminicides, des personnes qui sont brûlées, torturées, tuées parce qu'elles sont femmes ou parce que ce sont des personnes hors cadre. Et ça, moi, ça, c'est... Enfin, je pense que c'est un trauma en fait que culturel majeur que nous avons à soigner, à régler, à observer pour ne pas reproduire ce genre de choses plus tard et essayer de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là et ce qui se passe toujours aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là à votre avis et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Le patriarcat ne supporte pas la remise en question, ne veut pas lâcher ses privilèges, ne veut pas sortir de ce système qui les avantage. Et j'ai l'impression que c'est une longue histoire de dépossession de ces femmes qui ont été dépossédées de leur savoir, de leur nom, de leur terre, de leur corps, de leur intuition, de leur savoir relationnel aussi, de leur mode relationnel, pour imposer tout un autre monde. Un monde de la conquête, un monde de...
Cartésien.
Exactement, rationaliste. Où la science règne en fait sur le monde. Et en France, on est particulièrement, on va dire, touché par ça parce que on est très sujet à la fascination par rapport à la médecine. Voilà, le médecin, c'est vraiment, il a tout pouvoir. Et je pense que c'est dommage, on a perdu quelque part des choses qui étaient des connaissances simples, où on pouvait être autonome par rapport à notre santé, par rapport à notre gynécologie, par rapport à notre sexualité. Et la sexualité aussi, il ne faut pas l'oublier.
Oui, ça c'était parce que les sorcières étaient des femmes qui aidaient à accoucher, qui aidaient à avorter aussi. Donc elles participaient de la sexualité des femmes.
Oui, du corps, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi leur sexualité, c'est-à-dire qu'elles étaient considérées comme lubriques,
oui,
comme couchant avec le diable. On leur attribuait toutes sortes de fantasmes.
Enfin, insatiables.
Voilà, et tout ça, ce sont aussi, il faut imaginer que toute cette histoire, c'est une histoire de dépossession et de fantasmes.
Alors,
parce que voilà, ce sont des hommes qui ont fantasmé tout ça,
Bien sûr.
C'est l'Inquisition qui a imaginé, répertorié, catalogué dans des manuels, fantasmé tout ce qu'elles pourraient faire, ces femmes, entre elles, la nuit quand on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire ? Ensuite, il y a la colonisation et maintenant le capitalisme qui fonctionne de la même manière. Et donc la conquête des territoires, la colonisation, c'est aussi des formes de dépossession. On enlève des cultures, des mémoires, des langues, des histoires. Et le capitalisme a cette capacité aussi à phagocyter, à détruire et à absorber chaque chose. Et voilà, moi je pense que c'est ça qu'il faut observer, ce mécanisme-là de dépossession.
Alors il y a une sorcière que vous avez rencontrée, une grande sorcière, une prêtresse néo-païenne que vous avez rencontrée, Camille Ducellier, à San Francisco. C'est une femme, je crois, qui compte beaucoup pour vous. C'est une des femmes les plus écoutées de l'écoféminisme, une des voix contemporaines les plus respectées de la spiritualité moderne et qui pense justement que les sorcières représentent des valeurs qui peuvent être des clés pour résister à la crise actuelle.
Nous avons besoin de revenir aux valeurs que les peuples indigènes défendent et ont toujours défendues, qui sont enracinées profondément dans nos traditions indigènes européennes et qui disent que la nature est sacrée, que les choses dont notre vie dépend, l'air, le feu, l'eau, la terre, ne sont pas des commodités à acheter et à vendre, mais des entités sacrées qu'il faut protéger, partager et dont il faut profiter collectivement. Si on parvient à opérer ce genre de transition, d'une vision du monde qui perçoit tout comme des objets isolés à une vision du monde relationnelle, qui voit le monde entier comme un réseau de relations, alors il y a un espoir de transformer nos technologies, nos économies, nos villes, nos productions alimentaires, nos modes de vie, de façon à pouvoir contrer le changement climatique et l'immense dégradation environnementale qui a lieu partout dans le monde. Si on ne fait pas ça, alors il ne reste pas beaucoup d'espoir pour la survie de notre civilisation dans sa forme actuelle. Elle n'est pas viable. Mais si l'on fait ça, je crois que l'on peut vraiment créer un monde qui fonctionne mieux pour tout le monde.
Camille Ducelli, c'est un extrait de votre rencontre avec cette grande sorcière qui s'appelle Starhawk.
Je trouve qu'elle a une manière très intelligente de nous ramener justement à ce monde relationnel, à nous faire comprendre qu'il faut passer d'un paradigme à un autre, celui donc de la conquête et de l'expansion et du capitalisme et du néolibéralisme à celui d'un monde plus relationnel et plus local. On voit qu'on revient beaucoup à ça en ce moment, que ce soit au niveau de l'agriculture aussi ou de nos modes de vie, qu'il faut repenser à une autre échelle et qu'on est parti dans un délire de mondialisation et que il faut peut-être mettre fin à un certain monde pour arriver à un autre monde où on reviendrait à quelque chose de plus local. Et ce qu'elle ne dit pas dans cet extrait et qui pour moi est fondamental, c'est la relation aux soins. Parce qu'elle dit qu'en fait les femmes pendant des siècles et des siècles ont porté les valeurs de soins, c'est-à-dire prendre soin des plantes, des animaux, des enfants. Elles ont porté ces valeurs-là non pas parce que ce serait quelque chose de naturel, mais parce que c'est quelque chose qui a été construit culturellement. Et comme le féminin est dévalorisé dans notre système patriarcal, alors ces valeurs de soins sont dévalorisées. Et ce qu'on est en train de faire en ce moment, grâce aux écoféministes, et notamment à Starhawk et à bien d'autres, d'autres écoféministes blanches et non blanches, c'est de comprendre ça, en fait, qu'il faut redonner de la valeur aux soins. By the light.
Rosie, c'est ce que vous écoutiez quand vous étiez aux Arts Déco, Camille
Oui,
Dességuier.
J'aime beaucoup.
Et un peu une voix de sorcière par moment, non?
Oui, d'une certaine manière, oui.
Alors jusqu'à 15h sur France Inter, c'est toujours la journée particulière de l'artiste, réalisatrice, documentariste, sorcière, Camille Dességuier. En 2007, Camille Dességuier, donc un stage à la clinique psychiatrique Laborde, vous fait prendre conscience qu'il n'y a pas les foufous d'un côté et les autres de l'autre, que les frontières sont plus perméables que cela. En 2007, vous avez transformé votre manière de penser et depuis, Camille Dességuier, vous aimez filmer entre les lignes, les entre-deux, les cultures minoritaires, les marges. Vos documentaires sont peuplés de sorcières, de femmes urinant debout, de personnages trans. Vous interrogez le genre et dans votre travail de documentariste, vous vous interrogez sur le corps et ses mutations et ses frontières. C'est ça qui vous intéresse?
Oui, c'est toujours ça qui m'intéresse. Et c'est toujours la passion des relations et ce qui se passe entre soi et l'autre, cette distance-là. Et avec la caméra, justement, cette distance symbolique ou réelle entre la caméra et puis le personnage, qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui m'intéresse. Et aussi de valoriser, de donner un espace de parole à des gens que j'admire ou dont je suis curieuse de savoir comment ils œuvrent avec leur corps et de leur rendre hommage différemment de ce que les médias peuvent proposer, parce que parfois ce sont des visions assez réductrices et voilà, tous les personnages un peu hors normes peuvent être montrés du doigt d'une manière qui moi ne me parle pas.
Souvent, notamment sur les sites de drague, les hommes à qui je parlent de un trans. Non, moi je suis une trans, je suis une femme trans. On genre en fonction du genre de destination. Donc moi, je suis né petit garçon, je suis devenue une femme, je suis une transsexuelle, une trans. Être trans, c'est passer d'un état et vouloir être perçu au quotidien, sans effort, plutôt naturellement, pour le genre vers lequel on s'identifie. Aujourd'hui, moi, je suis opéré, et j'ai mon changement d'état civil, c'est-à-dire que sur ma carte d'identité, j'ai mademoiselle, enfin madame, mon prénom féminin, Elisabeth, mon nom de famille. J'ai un numéro de sécurité sociale qui commence par 2, comme toutes les femmes. Je suis une femme avant tout, mais dans mes relations intimes et personnelles, je trouve ça important que mon entourage sache que je suis trans, parce que c'est ma spécificité, ça fait intégralement partie de qui je suis.
Alors là, Camille Dességuier, c'est un extrait de votre série Genre le genre, et c'est Elisabeth qu'on entendait.
Oui.
On va rencontrer plein de personnages dans votre série, ce sont des portraits courts, c'est ça?
Très courts, d'une minute trente, et l'idée c'était vraiment de trouver une personne qui définit et incarne à la fois un terme. C'est vrai qu'aujourd'hui le lexique queer est très très compliqué à suivre et change énormément d'année en année. Et donc on a voulu faire une petite série un peu pédagogico-queer pour expliquer à tout le monde de manière un peu accessible comme ça, facile, des termes.
Alors c'est ça, vous faites un portrait de une trans, de un trans, et vous expliquez le terme queer, vous expliquez
polyamour, cisgenre,
body positive, réassignation, passing.
Oui, F to X aussi, female to unknown, un certain nombre de termes qui nous permettent de changer un peu notre mode de langage et de comprendre toutes ces variations justement entre les genres. Il n'y a pas uniquement du très très féminin strictement et du très très masculin. Il y a toute une gamme, toute une nuance, de la même manière que le jour devient nuit de manière subtile et pas d'un coup. Pour moi, c'est ça qui est intéressant, c'est de donner la parole à des personnes qui incarnent toutes ces facettes.
C'est la fluidité.
Cette fluidité, tout à fait.
Alors j'ai vu que cette série a été coproduite par France Télévisions. C'est une série qui s'est adressée à des adolescents?
Oui, tout à fait. C'est aussi en lien avec la plateforme Slash, France Télé Slash, qui effectivement vise à un public d'ados et de jeunes adultes. Et nous, donc mon équipe, on a essayé de faire quelque chose qui soit accessible pour ces jeunes-là et qui puisse leur permettre de se construire
En toute liberté.
En toute liberté, voilà, sans vouloir se conformer à des normes.
Et ça, c'est un travail politique. C'est politique de faire ce travail-là, Camille Dességuier.
Pour moi, c'est très très important. Et en parallèle de mon activité artistique, ça fait 10 ans que j'interviens dans des collèges pour faire des interventions autour des questions de sexisme, de racisme et d'homophobie auprès des ados, parce que je suis convaincue que c'est à ces moments-là, avant que les hormones viennent nous chambouler, etc., ou en même temps, qu'il faut discuter, qu'il faut déconstruire et qu'il faut se donner la liberté d'être soi.
quand j'étais petit, enfin petite, genre on marchait dans la rue et tout, que j'étais avec mes parents, et genre c'était comment s'appelle ce petit garçon ou comment s'appelle cette petite fille. Moi, tout ce que je répondais, c'était non, mais je suis pas un petit garçon, je suis une petite fille. Et quand on me disait cette petite fille, je disais bah non, je suis pas une petite fille, je suis un petit garçon. Le roller derby, ça faisait longtemps que je voulais en faire parce que j'avais entendu parler de ce sport qui était un sport qui portait des valeurs féministes et inclusives et qui était un sport qui était ouvert aux personnes trans aussi, où le genre, a sa place et n'a pas sa place entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux être une meuf trans ou un mec trans et aller jouer où tu veux. C'est pas le fait que t'aies de la testo dans le corps qui va faire que tu sais jouer au derby, parce que de toute manière, vu que les gabarits sont tous complètement différents, côté de la testo ou pas dans le corps, c'est pas ça qui fait que, tu vois. Très bien.
Camille Ducellier, là, c'est un extrait d'un autre de vos documentaires qui porte sur un jeune
garçon trans.
Un jeune garçon trans qui est passionné. Jasmin.
Oui, passionné de roller derby. Ça s'appelle Gender Derby.
Ouais.
Et donc, effectivement, on suit Jasmin et son équipe. Du roller derby, c'est un sport qui se pratique sur patin à roulettes, sur un espace qui s'appelle le track. Et il y a deux équipes qui s'affrontent. Et donc, c'est un sport de stratégie, de vitesse et de contact, qui a aussi tout un univers autour, avec beaucoup d'humour, d'autodérision. Par exemple, chaque joueuse a un nom. Donc le nom de Jasmin, c'est Fouflarage, et c'est son derby name, et c'est une manière aussi d'avoir une autre personnalité pendant le match. Et c'est un des rares sports au monde qui est inclusif pour les personnes trans, parce que le sport est un monde extrêmement normatif, et ça, tout le monde en a fait l'expérience, adolescent ou adulte. C'est-à-dire qu'on est dans une équipe relative à son sexe biologique. Mais donc, pour toutes les personnes qui ne sont pas en relation directe entre le sexe et le genre attendu par la société, eh bien, alors quoi ? Alors, on peut pas faire de sport. Et donc, du coup, ce sport-là, qui est féministe, qui nous vient des États-Unis, qui a été relancé un peu avec le film Bliss, permet, voilà, à des personnes trans de pouvoir jouer dans l'équipe de leur choix.
Alors, Jasmin, c'est un personnage magnifique que j'ai beaucoup aimé, qui m'a aussi beaucoup impressionnée, parce que c'est quelqu'un, justement, qui m'a fait réfléchir à la fluidité. C'est donc quelqu'un qui prend de la testostérone, mais qui veut rester un peu homme, un peu femme, qui veut de temps en temps se genrer au féminin et par d'autres moments se genrer au masculin, qui veut justement garder cette fluidité. Et c'est, je crois, avec ce personnage, Camille Ducellier, je vous en remercie, que j'ai compris ce que c'était que la fluidité.
Merci. Il faut remercier Jasmin et tous ses amis. Effectivement, c'est quelque chose qui était très important pour Jasmin et pour moi, que dans la série, nous ne cédions pas à la tentation de narration A vers B, c'est-à-dire un personnage qui va d'un bord à un autre, et de raconter une histoire d'une personne trans qui voudrait aller du féminin strictement au masculin. Non, il se trouve que ce n'est pas le cas de Jasmin et ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes qui sont dans cet entre-deux genres et qui ne cherchent pas absolument à aller quelque part de précisément. Et c'est vrai que dans le cinéma, il y a une tendance à vouloir un peu jouir de cette fascination pour la voix qui baisse, les poils qui arrivent, la sortie de l'hôpital.
Avec les hormones.
Les hormones, la relation avec les médecins. Enfin, il y a un peu des passages obligés narratifs. Et nous, on a essayé de court-circuiter ça pour montrer un instant T de la vie de Jasmin et surtout de montrer que bien au-delà de ses questionnements autour de sa transition, il est passionné de roller derby, il a des amis, il a des relations. Il vit aussi bien d'autres choses et il n'est pas que trans.
Alors Camille Ducellier, vous avez reçu plusieurs prix pour vos documentaires. Et le dernier, c'était en 2020. C'était le prix des nouvelles écritures du FIPADOC pour une autre web-série qui porte là sur le quotidien d'une jeune chef d'orchestre qui s'appelle Lucile Gay. Un extrait.
Au moment où les corps rentrent, il y a vraiment quelque chose de très Comment vous les entendez, ces corps-là? Vous les entendez comment?
Un petit peu lointain.
Un petit peu lointain, oui. Oui, pas mal. Oui.
Et puis...
Ça, voilà. Mm. Ce que vous venez de faire là, c'est ça. Mm. C'est-à-dire, c'est quelque chose de... Voilà.
Camille Ducellier, qu'est-ce qu'on entend là? Parce que le son est absolument magnifique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, cette jeune chef d'orchestre, Lucie Leguet, rencontre son maître, que vous avez appelé Maître Yoda. Et ça marche assez bien, j'avoue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on entend?
Alors, on est au Portugal avec Monsieur Béraud, donc son maître Yoda, et ils sont en train de répéter une pièce. Et donc, comme ce sont deux chefs d'orchestre, qu'il n'y a pas l'orchestre avec eux, quand on répète et qu'on est chef d'orchestre, quelque part, on aspire les silences. On essaye de ponctuer, en tout cas c'est la manière dont ils ont travaillé la partition, donc ils ont chacun la partition, ils suivent l'entrée des instruments, des différents instruments. Et effectivement, ce son, ces respirations, c'est une manière de lire la partition tout en suivant toutes les aspirations, respirations des instrumentistes. Et donc c'est assez ésotérique pour le coup, assez étrange à observer et à écouter, et très beau. Et il y a quelque chose d'assez mystérieux et aussi impalpable dans ce travail de chef d'orchestre qui peut sembler pour plein de gens justement mystérieux, parce qu'on se demande ce que font ces hommes et ces femmes à brasser du vent comme ça avec leurs baguettes ou avec leurs mains. Et donc du coup, le but de la série, c'était de décrypter ce métier particulier et cette fonction de chef, chef.
Chef pourquoi? Parce que c'était une femme qui était chef?
Tout à fait, et qu'il n'y a que 4% de femmes chefs d'orchestre en France et 6% en Europe. Donc c'est vraiment ridicule la place qui est donnée à ces femmes chefs. Et en même temps, ça rejoint toutes les autres statistiques. Et à chaque fois que les femmes sont à des postes de direction, elles sont en très faible nombre. C'est une fonction, la fonction de chef, c'est les seules à être debout. Hein. L'orchestre est assis, tout le public est assis. Et il y a une personne debout, verticale, dressée, qui est là.
Une femme debout.
Et c'est pas n'importe quoi d'incarner ça. Et donc, quand c'est des femmes, c'est compliqué pour ces femmes-là de s'imposer. Et voilà, moi, dans mon travail et dans mon envie de valoriser plein de démarches différentes, j'ai eu envie de faire aussi le portrait de Lucie Leguet et de montrer ce que c'est ce métier-là, incarné par elle.
Et d'en faire entendre la musique.
Mais c'est important quand même, quand on est chef d'orchestre, on est au service de la musique.
J'irai pas à votre école. J'irai pas. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement. J'irai pas. J'irai pas me coucher. J'irai pas à votre hôpital. J'irai pas. J'irai pas à vos Facebook. J'irai pas à vos colonies de vacances. J'irai pas. J'irai pas à votre enterrement.
Une journée particulière, Zoé Varier sur France Inter.
Camille Ducellier, Brigitte Fontaine, c'est votre genre de beauté?
Oui, tout à fait, c'est la mauvaise femme par excellence et je suis ultra fan.
Et elle est un peu folle, faux folle.
Oui, elle est tout en excès et moi je trouve ça toujours étonnant les gens qui débordent comme ça, qui osent être eux-mêmes. Qui se lâche.
Et je reprends ce que vous m'avez dit en tout début d'émission, juste avant qu'on commence. Vous m'avez dit l'important, c'est de réussir sa folie.
Oui.
Et j'aime beaucoup cette expression. Alors, 1er avril 2007, c'est votre journée particulière, Camille Ducellier. En 2007, Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Il divorce, vous vous en souvenez. L'abbé Pierre meurt. DSK est nommé à la tête du FMI. Et la crise des subprimes secoue l'ensemble des places financières. Ça vous dit rien, tout ça?
Ah bah, je m'en rappelle, oui, quand même.
En 2007, Doris Lessing recevait le prix Nobel de littérature. Chloé Delhomme écrivait « La nuit, je suis Buffy Summer ». Et J.K. Rowling publiait le dernier roman de la série Harry Potter. Vous les avez tous lus, j'imagine?
Non, car je lis très peu. Je lis très peu et ça fait de chaque expérience de livre quelque chose d'assez rare. Et donc je me souviens de chaque livre très précisément. Mais non, je ne suis pas quelqu'un du monde des livres.
Et vous n'êtes pas très intéressée non plus par l'actualité, Camille Ducellier?
Je suis parfois assez déconnectée de l'actualité. Et heureusement que j'ai des amis qui sont beaucoup plus connectés. Parce que sinon, la fin du monde pourrait être arrivée et que je ne serais pas au courant. Mais voilà, heureusement j'ai des amis qui me font des fiches de lecture et qui me disent où on en est.
Ou ce que vous devez savoir. Alors si je vous dis qu'en 2007, il y a une grande star américaine qui a fait son premier concert à Paris. Vous avez une petite idée de qui ça pourrait être ou pas du tout ? Vous avez reconnu Camille Ducellier?
Au début, je n'avais pas reconnu. Heureusement que vous m'avez dit que c'était Barbara Streisand, sinon j'aurais arrêté la honte.
Et vous aimez?
Oui, j'aime beaucoup. Oui.
Ah oui, moi, alors moi, je pensais que c'était complètement ringard.
Ah, mais moi, je suis très désuète comme femme.
Ah oui?
J'ai un côté ringard j'aime beaucoup.
Et qu'est-ce que vous aimez d'autre comme ça, de ringard?
Boris Vian.
C'est ringard?
Je sais pas.
En fait, son 100e anniversaire. Quoi d'autre?
Qu'est-ce que j'aime comme musique?
Ouais, non, de ringard, vous dites je suis un peu désuète, de choses désuètes.
C'est vrai que j'aime Delphine Seyrig, c'est pas ringard du tout, mais disons que j'aime Radioscopie,
ouais.
J'aime des choses qui sont pas forcément ce que les gens de mon âge écoutent ou apprécient. J'ai été élevée par une grand-mère, et par une mère, mais par une grand-mère cinéphile et qui m'a donné le goût du cinéma des années 50, 40. Enfin, j'ai un monde comme ça, un peu parfois du passé aussi.
Avec Delphine Seyrig, c'est un joli monde.
Oui, Delphine Seyrig, elle m'a énormément accompagnée dans toute ma vie. Et d'ailleurs, j'ai donné le nom à une intelligence artificielle dans un de mes projets qui s'appelle Reboot Me. Et l'intelligence artificielle s'appelle Seyrig en son hommage, car c'est l'actrice et la réalisatrice féministe que je préfère.
Alors en 2007, vous parlez de cinéma, Camille Ducellier. Le film 4 mois, 3 semaines et 2 jours recevait la Palme d'Or au Festival de Cannes.
Vous en êtes à quel mois ?
Troisième.
C'est pas ce que vous m'aviez dit.
Quand on s'est parlé, j'en étais au deuxième. J'en suis au troisième, maintenant. Vous allez l'anesthésier ?
J'y venais.
Je demande ça parce que, concrètement, je ne sais pas comment ça se passe. J'ai une amie qui, pareil, a subi une interruption et on l'a anesthésiée.
Vous n'avez jamais avorté, vous ? Que ce soit clair, je ne fais pas de curetage, d'accord ? Ce n'est pas ce qu'on s'est dit et ce n'est pas nécessaire. Si on arrive à s'entendre, je vous poserai une sonde qui provoquera l'avortement. Bien sûr. Ce n'est pas sans douleur. Ça saigne, il faut faire attention à l'hémorragie, mais c'est sans anesthésie. C'est pas assez douloureux pour une anesthésie. Et ici, c'est pas prévu pour. On n'endort pas les gens n'importe où, il faut faire ça à l'hôpital.
C'est un film que vous avez vu, Camille Ducellier ?
Oui, je l'avais vu, ça m'avait beaucoup marqué, aussi bien sur le fond que sur la forme. à vrai dire, parce qu'effectivement, le sujet est très poignant et très cru. Et je trouvais aussi que la forme était extrêmement élégante et sobre. Enfin, ça m'avait énormément marqué, à la fois pour la bébé féministe que j'étais.
Ben, l'avortement.
Et voilà, parce que j'ai toujours été extrêmement sensible de toute façon à toutes les violences qui sont faites aux femmes et aux minorités de genre. Et donc, oui, ça m'a marqué, et aussi sur le plan cinématographique.
Des voyantes, des Madame Soleil, des sujets psy, des médiums, des astrologues, des cartomanciennes, des hypnotiseuses, des guérisseuses, des télépathes, des femmes à part, des féministes radicales, des lesbiennes politiques, des anarcha-féministes, des communistes, des ouvrières en colère, des grévistes, des résistantes, des vierges rouges, des communardes, des pétroleuses, des affranchies, des somnambules, des hystériques, des folles alliées, des viragos, des putains, des putes, des filles de putes, des femmes sans enfants, des mères infanticides, des lesbiennes mères, des filles mères, des castratrices, des avorteuses, des femmes avortées, des salopes, des dangereuses, des femmes fatales, des goules, des vénales, des entretenues, des cocottes, des célibataires, des asexués, des androgynes, des transgenres, des transboys, des transgirls, des pansexuels, des butch, des IFM, des intersexes, des hermaphrodites, des mutantes, des cyborgs, des handicapés, des femmes musclées, des femmes fortes, des femmes bodybuildées, des femmes testostéronées, des durs à cuire, des bikeuses, des camionneuses, des femmes actives, des femmes de pouvoir, des femmes intelligentes, des bas bleus, des femmes intellectuelles, des militantes, des artistes, des femmes précaires, des clochardes, des marginales, des ménopausées, des femmes vieillissantes, des vieilles peaux, des femmes en chair, des femmes obèses, des érotomanes, des femmes à barbe, des femmes voilées, des stripteaseuses, des hôtesses de bar, des alcooliques, des mélancoliques, des meurtrières, des femmes violentes, des femmes à hommes, des misandres, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières.
C'est un extrait de votre premier film, Camille Ducellier. On trouvait que c'était une jolie façon de conclure cette émission. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter à cette énumération encore ?
Oh, il y en a beaucoup d'autres. Toutes les présumées coupables,
ah oui,
de l'histoire.
On n'a pas eu le temps de parler de la magie, parce que non seulement vous vous revendiquez sorcière, mais vous revendiquez aussi le recours à la magie.
Oui, disons que j'aime faire des ponts joyeux entre des pratiques ésotériques et des pratiques féministes. C'est quelque chose qui m'amuse de rassembler des univers qui n'ont pas l'air a priori de se rencontrer et de voir comment on peut les faire dialoguer. Et c'est vrai que je suis passionnée par l'astrologie notamment et par plusieurs pratiques ésotériques.
Alors si nos auditeurs veulent en savoir plus sur vos ponts joyeux, parce que c'est joliment dit, comment peuvent-ils faire ?
Eh bien, via mon site internet, camilleducellier.com, où il y a donc différents films qui sont accessibles. On peut aussi acheter un DVD en ligne. Il y a aussi Gender Derby, dont on a parlé, qui est gratuitement en ligne, ainsi que Chef. Et donc, petite parenthèse, ces deux séries digitales documentaires sont tournées en verticale. Donc la caméra, au lieu d'être en 16/9, est en 9/16. Et ça change bien des choses sur la manière de construire le rapport à l'image. Et donc, c'est un format portrait.
Il y a aussi votre livre, Le guide pratique du féminisme divinatoire, et qui est publié aux éditions
Cambourakis.
Merci Camille Ducellier, c'était un plaisir. C'était Une journée particulière, une émission préparée par Hugo Combe, à la réalisation Flora Bernard, à la programmation musicale Djoubaka, à la technique aujourd'hui c'était Juliette Delperroux. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter et surtout podcaster cette émission sur le site de France Inter. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end.